Histoire d'archives sur Fréquence Mistral avec Jean-Christophe Lavabadie. Jean-Christophe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pour une nouvelle émission de votre désormais célèbre émission sur notre antenne digne de Fréquence Mistral. De quoi allez-vous parler aujourd'hui ?
Alors écoutez, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de notre actualité de la rentrée, puisque vous savez que les vacances sont un temps propice pour justement organiser le rush de la rentrée de septembre, et donc nous sommes en train de préparer un certain nombre de choses, et en particulier autour des journées du patrimoine qui ont eu lieu donc pour nous le 16 septembre, 17 et 18 septembre. Donc nous sommes en train de préparer en fait à la fois une exposition et un événement autour de la citoyenneté. Alors cette exposition, c'est dans le droit fil de notre projet 1914-1918, donc relatif donc au centenaire de la Grande Guerre. Nous allons donc présenter l'année, alors ce n'est pas très original puisqu'on reste dans le centenaire, l'année 16-17, puisqu'actuellement les visiteurs des archives peuvent découvrir l'année donc précédente. Alors on travaille en gros depuis le début en respectant un peu la chronologie du début de la guerre, la mobilisation le 1er août, donc 1914, et donc on respecte un petit peu ce temps qui correspond d'ailleurs au temps scolaire, et donc ce qui présente beaucoup d'avantages. Alors donc le 16 septembre donc à Digne, aux archives départementales, donc nous allons inaugurer à 17h30, notre nouvelle exposition dans laquelle on a toujours un fonds commun qui est celui des combattants basalpins. Donc nous allons rajouter encore 50 combattants basalpins au mur des combattants, qui en compte déjà 200. Et puis nous allons continuer à évoquer la question des femmes et des enfants dans la Grande Guerre. Nous évoquerons toujours aussi la violence de la guerre à travers le destin de quelques basalpins qui en ont été les victimes, soit tués, soit blessés. Et puis nous allons présenter de nouveaux thèmes, puisque c'est l'objectif aussi de l'exposition chaque année, de proposer des nouveautés qui concernent en fait la guerre en général, mais en essayant toujours d'avoir un angle basalpin.
Là, le thème de 1915-1916, il y avait l'évocation, vous évoquiez les armes qui s'étaient sophistiquées.
Voilà.
Les rapports des militaires et des soldats qui écrivaient avec leurs parents.
Voilà,
leur
exactement.
Famille.
Voilà. Donc, effectivement, dans l'exposition actuelle, on était surtout sur Verdun, centré autour de Verdun, mais aussi, effectivement, sur alors, ce qu'on appelait le système tranché, c'est-à-dire, en fait, tout le système, l'organisation militaire de défense, puisqu'on est dans une guerre défensive à ce moment-là, donc avec tous les dispositifs qui existent, des barbelés jusqu'aux oursins qui sont une forme de barbelé qu'on ne connaît pas, mais voilà, donc on présentait tout ça effectivement, on présentait aussi, vous avez raison, des correspondances entre des basalpins combattants donc sur le front et l'arrière, en particulier avec leurs épouses et leurs enfants, et puis une autre chose qui était importante dans cette exposition, qui était celle donc de trois armes, et en particulier donc les gaz, puisque c'était la période d'utilisation. Évidemment, dans le département, on est très sensible à cette question-là à cause de l'usine de Saint-Auban, qui est l'usine chimique de Saint-Auban, comme on disait, qui a été donc créée durant la guerre et qui donc a participé à cette lutte en fabriquant donc des gaz pour faire des gaz de combat. Voilà, donc on avait évoqué évidemment cette question-là à partir d'un ouvrage d'ailleurs qui était fait et qui avait un angle intéressant parce que reprenait un petit peu cette mythologie de la Première Guerre mondiale autour donc justement de l'arme chimique qui a peu tué en réalité mais qui a créé beaucoup de désagréments, qui a compliqué beaucoup la guerre, de l'arme blanche aussi, parce qu'il y a beaucoup de mythologie autour de l'utilisation de l'arme blanche. On imagine à tort que les combattants de 14-18 utilisaient beaucoup les armes blanches. Alors on a la baïonnette, évidemment, qui s'impose, mais aussi le couteau. Or, en réalité, même si on n'a pas de statistiques sur les causes de la mort, il n'y avait pas de statistiques faites sur les causes de la mort, on a des statistiques sur les origines des blessures. Et on constate qu'en fait, à peine 1% des blessures étaient d'origine d'une arme blanche. Donc en fait, il y a beaucoup de mythologie autour de ça. En réalité, Mais je l'ai déjà dit à ce micro, la mort venait surtout des éclats d'obus, éventuellement des grenades, et donc c'était une mort de loin, en fait, hein, où le combattant ne voyait pas qui il tuait, et celui qui était tué ne voyait pas qui l'avait tué. Voilà, c'était vraiment, c'est en gros 60-65% des morts, hein, donc voilà. Donc c'est ce qu'on avait montré dans cette exposition.
Les armes devaient être un petit peu plus sophistiquées, puisqu'il y avait des tirs de plus ou moins longue distance qui sont apparus, et des gens qui fumaient leurs cigarettes, qui se faisaient allumer la nuit et compagnie aussi.
Alors, oui, alors, tout ça, c'est un peu... En fait, les soldats ont appris à être très prudents très très vite. En réalité, l'image des grandes attaques du début de 14, hein, où effectivement il y a une mortalité absolument effroyable, qu'on retrouvera d'ailleurs à certains moments durant la guerre, mais avec des formes différentes, on ne les trouve plus durant la guerre. En fait, les soldats montent par petits groupes à l'assaut, ils se cachent, ils se couchent, ils attendent. Ils ont appris, évidemment, on a beaucoup de descriptions, hein, où ils racontent comme ils se collent à la terre, quoi, littéralement, hein, dans le moindre trou, parce qu'ils ont bien compris qu'évidemment, il faut donner le moins de prise possible à l'arme ennemie. Vous avez raison aussi, les armes se sont beaucoup sophistiquées. Les moyens de défense aussi, hein, parallèlement. Les canons, on a toutes sortes de formes de canons, des canons longs, des canons courts, des canons qui tirent en tir droit, en tir courbe, etc., qui sont adaptés à toutes les formes de combat. Parce que c'est vrai que la guerre de 1914 est devenue une guerre, sans doute la première guerre technologique, hein, où il y a vraiment, où le matériel a une importance considérable, et d'ailleurs, ça sera vrai avec les avions et avec les tanks, donc les chars de combat, en fait. Hein. Voilà, donc c'est très important, effectivement, de souligner ce fait de cette adaptation au combat. La doctrine militaire, évidemment, a évolué. J'en avais parlé aussi, le système de santé s'est adapté aussi aux formes de combat, aux formes des blessures, parce qu'évidemment, la logique la logique militaire, c'est de réussir, évidemment, ce qu'on entreprend, mais c'est aussi un rapport entre les coûts, vous voyez, l'investissement, le coût et le résultat. Voilà. Alors c'est vrai aussi, et je fais la liaison avec notre exposition cette année. On l'a sous-titré les années de crise, le temps des doutes, car l'année 16-17, hein, qui pour nous démarre donc en 1916, en août, alors en fait est marquée en réalité par en juillet, le 1er juillet, l'offensive sur la Somme, qui met sur le tapis un nombre incroyable, bien plus que Verdun d'ailleurs, hein, en réalité, la Somme est plus coûteuse en hommes, puisqu'on considère qu'à peu près 1 million d'hommes, que ce soit du côté évidemment allemand, que du côté britannique ou du côté français, 1 million d'hommes ont été soit tués, soit blessés, soit disparus. Donc ce qui est beaucoup plus que Verdun, ce qui est considérable. Et donc on reproduit avec la Somme les erreurs, hein, ce sont les Britanniques qui vont le payer, avec 21 000 morts le premier jour de l'offensive, on reproduit en fait les erreurs commises en août 14, où on lançait finalement des troupes à l'assaut en pensant que les tirs d'artillerie à ce moment-là avaient annihilé toutes les défenses ennemies, et en réalité, après le tir, les soldats ressortaient de leurs trous, ils étaient bien enterrés, et donc évidemment, les mitrailleuses ont fait un massacre absolument effroyable, et pour les Britanniques, la Somme, c'est l'équivalent de Verdun, si vous voulez. Hein. C'est vraiment, c'est pour ça que ça a beaucoup d'importance. C'est pour ça qu'ils vont d'ailleurs le célébrer cette année.
Oui, c'est un genre de pèlerinage.
Ah, c'est exactement ça. Et c'est vraiment pour les Britanniques. Hein. Ça concerne pas seulement les Anglais, mais évidemment les Australiens, les Néo-Zélandais, etc. Enfin, dans toutes les troupes qui étaient engagées sous la couronne, et effectivement, qui ont été victimes de ces combats.
Vous parliez d'avancées technologiques, mais technologique égale industrie. Qui dit industrie dit bénéfice pour les industriels. La guerre, elle a coûté en hommes, elle a rapporté beaucoup d'argent à cette époque-là.
Alors,
également.
Je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là. Je sais que en fait, la France, comme d'autres pays, est devenu le débiteur, en fait, de l'Amérique, parce qu'en fait, c'est beaucoup endetté, la France est beaucoup endettée pour avoir du matériel. C'est vrai, vous avez raison, hein, que le niveau matériel, il a fallu que les industriels construisent beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel, que ce soit des canons, des obus ou des chars ou des avions, etc. Vous avez raison, hein, il y a, mais c'est un point que je ne connais pas bien, donc je ne vais pas me lancer dans un développement sur le sujet. C'est un sujet sans doute que j'aborderai à un moment donné, hein, de toute façon, puisqu'on a encore une année à faire, hein, donc l'année 17-18. Donc peut-être que ça sera effectivement un des thèmes qui sera abordé, l'effort de guerre, hein, dans l'effort de guerre. Nous avons beaucoup parlé de la mobilisation des individus, en fait, des femmes et des enfants en particulier à l'arrière, mais il y a aussi évidemment cet aspect-là qui est important.
Oui, je ne sais plus si c'est la Première Guerre ou la Seconde Guerre mondiale, dans le film de Chaplin, Monsieur Verdoux, qui à la fin retrouve une des femmes qu'il a laissée en vie.
Oui.
Et elle est avec un monsieur qui a fait fortune en tant que marchand d'armes.
Alors c'est possible, hein, oui, je vois à quel film vous faites référence, effectivement, c'est vrai, il y a eu évidemment des fortunes qui ont été faites, bien sûr.
Donc nous reprenons la guerre 14-18 et le prochain thème de votre exposition aux archives départementales, soulignons-le quand même, faut pas le négliger. Vous avez eu beaucoup de monde pour le thème de cette année.
Alors,
se termine jusqu'au 31 août.
Oui, exactement. Alors en fait, on est toujours très content depuis 3 ans maintenant. Vous voyez, quand on est parti dans le projet qui a été construit en gros en 2012-2013, on avait effectivement cette incertitude quant à la fréquentation et quant au maintien de l'intérêt que les expositions pouvaient susciter. On n'avait à ce moment-là aucune idée de l'ampleur que ce centenaire allait évidemment provoquer. Et il était effectivement, c'est un peu une gageure, hein, de se lancer dans un projet de 4 ans. On était un peu dans l'expectative et on constate en réalité que ce sont les expositions qui ont le mieux marché, qui ont le plus de succès auprès du public. Depuis 2010, je suis aux archives départementales. Elle figure parmi les trois qu'on a faites pour le moment, enfin les deux et la troisième qui arrive, figure parmi les meilleures expositions qu'on ait présentées. Et vraiment, on constate cet intérêt permanent, en fait. Alors c'est vrai aussi qu'on a un public scolaire très nombreux, puisque c'est un sujet qui intéresse beaucoup l'école, et que par conséquent, ce n'est pas indifférent dans le calcul, évidemment, de notre fréquentation. Mais on a sans arrêt des gens qui viennent, et vous savez, dans le livre d'or, on voit hein, donc des gens qui rappellent un grand-père, un arrière-grand-père, ou qui ont combattu à Verdun, qui ont été blessés, etc. Et donc, vous voyez, il y a une vraie... mais on l'a vu hein, depuis maintenant 2 ans et demi, on l'a vu, il y a une vraie implication de la population dans cette affaire. On pensait que c'était un petit peu loin, vous voyez, que les choses... qu'on était vraiment dans l'histoire, et en réalité, on est à la fois dans l'histoire et dans la mémoire. Et donc, ce qui explique le succès qu'ont remporté nos deux premières éditions.
Et vos visiteurs vous posent des questions, parce qu'il y a il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de photos, il y a des commentaires, il y a beaucoup de personnes qui vous questionnent en essayant d'aller un petit peu plus près de l'actualité de l'époque.
Alors le principe de l'exposition, c'est que normalement, on n'a pas besoin d'être guidé, donc, hein, puisque tous les éléments sont là, vous avez raison, il y a les images, il y a les cartels donc, qui expliquent, hein, les textes qui expliquent, il y a des textes plus ou moins longs qui rappellent un peu le contexte, qui montrent l'intérêt du document qui est présenté. Donc en général, on n'a pas besoin de le commenter. Mais c'est vrai que quand on a l'occasion de le faire visiter en le commentant, évidemment, les gens y trouvent beaucoup plus d'intérêt. C'est le cas d'ailleurs des écoles. Hein. Les écoles ont droit tous à une visite commentée. Et on voit vraiment, évidemment, ça apporte beaucoup d'informations. Alors après, quand les personnes passent seules, elles sont souvent frappées par un dispositif qu'on a mis en place qui concerne la classe 1914, où on montre mois par mois le sort des 870 soldats basalpins qui ont été mobilisés. On montre ceux qui ont été tués, ceux qui ont été blessés et ceux qui sont encore vivants. Et on voit l'évolution tragique de cette classe, puisqu'on arrivera à la fin à plus de 30% de tués et 35% de blessés, quelquefois blessés multiples. Hein, c'est-à-dire, je crois que le record, c'est 8 fois. Donc les gens sont très frappés par ça. Vous voyez, c'est vraiment le genre de dispositif pour lequel on ne pense pas que ça va susciter un tel intérêt. Et à chaque fois, quand quelqu'un vient et regarde l'exposition, c'est vraiment cet élément-là qu'il retient le plus, parce que c'est très frappant, en fait. Et c'est graphique, hein, c'est des petits carrés qui prennent une couleur, rouge pour une blessure, noir pour un décès, et vraiment, ça donne vraiment... ça montre vraiment graphiquement l'impact de la guerre, mois par mois.
C'est comme s'il y avait des trous.
Exactement. Voilà. En fait, au départ, tout le monde est en petit carré blanc. Et tout doucement, et comme on le fait mois par mois, donc la personne qui regarde voit vraiment l'évolution mois par mois, ben voit c'est le noir et le rouge les noirs et rouges qui apparaissent de plus en plus. Vous voyez, donc c'est vraiment ça donne à la fois une idée de l'ampleur, ça donne aussi une idée aussi de la chronologie. Hein, c'est-à-dire que il ne faut pas imaginer une guerre linéaire. Hein, c'est-à-dire en fait, en gros, une classe qui serait comment dire une attrition comme on dit hein, chez les militaires régulière en fait pas du tout en réalité il y a le temps des combats il y a le temps du repos on voit l'hiver est un temps assez calme et puis les offensives de printemps vous voyez, comme le chemin des Dames en 17 le Verdun où là évidemment c'est février mais là c'est les Allemands qui attaquent mais c'est oui c'est juste en plein hiver, mais déjà bien avancé, eh bien, on se rend compte de la chronologie, en fait, des pertes. Et c'est comme ça qu'on peut imaginer, en fait, on peut s'imaginer l'impact que ça avait au niveau local, parce qu'il faut voir qu'à un moment donné, eh bien, le maire de la commune ou les gendarmes venaient informer plusieurs personnes, plusieurs familles de la perte de l'un ou de l'autre, parce que ça correspondait au moment des grandes offensives ou des grandes contre-offensives ou des attaques allemandes. Vous voyez, donc il y a vraiment un rythme de la mortalité qu'on voit très bien dans ce graphique. Alors que, évidemment, si c'était lissé, on n'aurait pas la même impression. Là, il y a vraiment des pics et c'est absolument effroyable.
À l'époque, il n'y avait pas encore la guerre des images. Heureusement pour les personnes qui étaient...
Alors, une guerre des images, bien sûr. Mais, oui, je vous ai interrompu là.
Non, 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 mais il n'y a pas les moyens actuels, tous ces médias. C'était vraiment plus radio, puis papier. Quoi.
Ah, alors, c'est surtout la presse. Oui, ouais. La presse est très, très importante. La radio, non, hein, mais c'est la presse. Hein. Vraiment, le médium vraiment le plus important, c'est la presse. Et il faut comprendre que la presse a une audience absolument incroyable. Hein. C'est-à-dire que vraiment, il y a des journaux qui tirent à plus d'un million d'exemplaires, hein, des journaux ou des publications plutôt, hein, parce que ça peut être des hebdos, etc., comme l'Illustration, par exemple, qui montre la guerre dans toutes ses formes. Donc il y a une information. Alors évidemment, il y a une censure militaire, etc., mais il y a quand même beaucoup d'informations qui circulent. Et par ailleurs, il y a aussi des formes, j'allais dire, officielles d'information qui passent par les instituteurs, les institutrices, hein, qui font aussi de l'information auprès de la population. Il y a des tableaux d'honneur, etc. Donc il y a quand même une propagande, une vraie propagande. Il y a à la fois de l'information et de la propagande qui touche vraiment les gens. Et donc les gens sont assez bien informés, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et puis il y a par ailleurs, il y a quand même toute la correspondance, qui est très importante, où les poilus racontent un certain nombre de choses, et racontent de plus en plus. Hein. Au début, beaucoup de pudeur, puis au fur et à mesure, ça disparaît un peu, et les gens, malgré la censure militaire, les soldats racontent de plus en plus. Et puis, il y a les photographies que les poilus ramènent, il y a tout simplement aussi les retours en permission des poilus qui racontent la guerre, voyez, donc il y a tous ces éléments-là qui font que... moi, je suis assez frappé, parce qu'on a travaillé sur les rumeurs hein, pour cette exposition, là, la prochaine, et je suis assez frappé de voir que les rumeurs circulaient très, très bien, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, quelque chose oui, qui paraît comme ça, un peu lointain, etc., en fait, était très, très vite diffusé dans le département. Voilà. Donc il ne faut pas... C'est toujours très difficile hein, de savoir le niveau d'information des individus, mais les gens... puis en plus... Il y avait le poids de la photo, vous voyez, des magazines comme l'Illustration qui utilisaient le principe, c'était un peu le Paris Match de l'époque, si vous voulez, hein, utilisaient la photo ou le dessin, le croquis, la carte, etc. Permettait en fait d'avoir vraiment une visualisation de la guerre. Alors évidemment, c'est impossible à décrire, hein, on est d'accord. Et puis il y a aussi tout ce qui est publié. Ne pas oublier que Henri Barbus publie Le Feu en 1916, hein, il a pris Goncourt, etc. Donc il y a quand même beaucoup d'informations qui circulent.
Et pour les nouvelles technologies qui vont arriver, il y a l'aviation qui va prendre une part plus en plus prépondérante.
Voilà. Alors ça, c'est évidemment... ça sera le sujet, donc l'angle au niveau des qui remplacera donc notre système tranché hein, de cette année. Donc ça sera effectivement l'aviation. Le prochain, ça sera la dernière année, on présentera en fait les tanks. Hein, donc là, l'aviation, effectivement, c'est un domaine finalement de la guerre tout à fait neuf. même s'il y a des avions, évidemment, avant la guerre de 1914, on va utiliser de plus en plus, enfin, les militaires vont utiliser de plus en plus l'aviation, d'abord à des fins d'observation, puis à des fins de bombardement, puis à des fins de chasse. Hein. On aura donc une spécialisation de cette aviation entre celui qui observe pour régler des tirs d'artillerie, vous voyez, celui qui va bombarder. Hein, donc on a des vrais bombardements, hein, donc sur des villes allemandes, sur des usines, etc., et réciproquement, et puis ceux qui vont faire la chasse, hein, donc les plus célèbres en fait, hein, dont Guillemer ou Funk, hein, qui sont les aviateurs, les as les plus célèbres, qui vont évidemment développer une spécialité qui n'était pas prévue à l'origine, car à l'origine, l'état-major interdit les combats aériens. En fait, l'objectif, l'avion, ça ne sert pas à ça à l'origine. Ça sert à faire l'observation, ça sert à régler du tir d'artillerie, ça sert à repérer les mouvements des troupes. Vous voyez, ça a servi aussi à déposer des espions. C'est-à-dire qu'en fait, les aviateurs, et Guillemer l'a fait d'ailleurs, déposaient derrière les lignes ennemies, donc des espions, qui étaient souvent des douaniers, parce qu'ils connaissaient bien le terrain. Donc au petit matin, vous voyez, l'avion se posait dans un champ, déposait son espion et repartait. Voilà. Donc voilà, il y avait aussi ces missions-là, ce qu'on appelle des missions spéciales. Mais vous avez raison, c'est un domaine tout à fait nouveau et qui va se développer de manière absolument exponentielle. Hein. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas, au départ, il n'y a pas d'avion, et où il y a très peu d'avions. C'est des avions assez rudimentaires. Hein. Quand vous regardez les photos des avions de 14 et de 15, vous même vous inquiétez un peu en vous disant mais comment un tel appareil peut voler. Et quand vous regardez les avions à la fin de la guerre, en 18, ce sont des objets technologiques très sophistiqués. Tout ça parce qu'effectivement, l'aviation a pris une part importante, et en particulier la chasse. Alors c'est intéressant, la chasse, et je ferai d'ailleurs une conférence sur ce thème en novembre, mais on en reparlera, mais c'est intéressant parce que c'est l'anti-guerre, en fait. C'est un miroir inversé, en gros, de la guerre du sol, vous voyez. La guerre du sol, qui est une guerre sale, qui est une guerre de tranchées, qui est une guerre de terre, de boue, de rats, vous voyez, enfin, où finalement le poilu ne fait qu'attendre et supporte des bombardements, des tirs d'artillerie. Il monte rarement au combat. Je vous l'avais dit, hein, il y a eu des calculs qui ont été faits. En fait, un soldat d'infanterie, il était au maximum à 15% de son temps au front, et il montait une fois, au pire deux fois à l'assaut, parce que sinon il était mort, vous voyez. Ceux qui sont montés plus de deux fois n'ont pas survécu, vous voyez, donc il montait assez rarement. Donc ces gens qui sont dans une guerre, en fait, tout à fait, comment dire, qui ne correspond pas du tout à l'héroïsme, vous voyez, eh bien, à l'inverse, les aviateurs, et en particulier les chasseurs, dans la chasse, c'est la chevalerie. Vous voyez, c'est vraiment la forme idéale de la guerre, celle qu'on aurait rêvé, vous voyez, celle qui fait rêver. Et à tel point, d'ailleurs, que quand vous aviez des combats aériens, donc qui sont des sortes de duels, vous voyez, on parle de duels aériens, hein, vous voyez, on a tout le vocabulaire féodal qui revient. Quand on a des combats aériens, ben les soldats qui sont dans la tranchée regardent et applaudissent le vainqueur. Alors évidemment, quand le vainqueur est dans son camp. Hein, mais vous voyez, il y a quelque chose de tout à fait particulier, de tout à fait étonnant, avec l'aviation. Alors du coup, l'état-major a été... Alors je vous disais tout à l'heure que l'état-major ne souhaitait pas que se développe une aviation de chasse. Elle s'est en réalité développée. Et puis l'état-major ne souhaitait pas non plus qu'on lève l'anonymat des combattants. C'est-à-dire que le principe, c'est que quand on ne dise pas, hein, on ne voulait pas... En fait, l'idée, c'était pas de... On ne voulait pas mettre en valeur des individus, on voulait mettre en valeur une armée. Une troupe, vous voyez.
Hein, pour les familles, c'est terrible.
Voilà. Et du coup, mais on a levé cet interdit, en fait, pour les aviateurs, qui sont devenus, en fait, de vrais héros. Hein, c'est-à-dire que là, comme Roland Garros, hein, qui est aussi un héros de la Première Guerre mondiale, qui a été tué à la fin de la guerre, voilà, et avant d'avoir, en ayant été capturé entre-temps et s'étant évadé, voilà, on a une forme très nouvelle de la guerre, qui est donc une guerre. D'aventuriers presque, puisqu'il n'y a pas d'aviation en tant que telle, il n'y a pas d'armée aérienne, ça n'existe pas encore, c'est en l'étrange qu'on créera donc l'armée aérienne, l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine. Mais on a donc des gens qui sont des aventuriers qui viennent d'autres armes, hein, qui peuvent venir d'artillerie, qui peuvent venir de l'infanterie, qui peuvent venir dans la technique, de la cavalerie, qui viennent combattre et qui créent finalement de nouvelles règles. Créer, comment dire, rappelle des règles de chevalerie, vous voyez. C'est pas pour rien qu'après on appelait ça les chevaliers du ciel, etc. Hein, enfin, tous ces termes. Mais déjà, durant la Première Guerre, on utilise les mêmes termes. Hein, et quand un combattant, par exemple, un aviateur valeureux est abattu par son adversaire, on a même des cas, c'est le cas pour Pégou, par exemple, quand Pégou, qui était un aviateur, un as français, a été abattu, bah, au moment de son enterrement, bah, le pilote qui l'avait abattu est venu et a jeté une couronne, une couronne de fleurs pour saluer la mémoire de celui qui l'avait vaincu. Vous voyez, donc il y a quelque chose de très très particulier, de très étonnant, et qui va donner lieu d'ailleurs à une très forte propagande, car du coup, à la fois le politique et le militaire vont s'appuyer sur ces aviateurs, sur ces figures absolument extraordinaires, parce qu'il faut voir les conditions du combat. Enfin, il faut s'imaginer que les avions montaient à plus de 1000 mètres, qu'il était très froid, qu'ils étaient vraiment exposés, et qu'il y avait un vrai rapport physique avec l'appareil. Vous voyez, enfin, ce n'est pas du tout l'appareil d'aujourd'hui avec le pilote automatique.
Vous voyez, et puis il n'y avait pas de cockpit.
Il n'y a pas de cockpit, il n'y avait rien, oui, vraiment. Donc, et quand ils combattaient, ils sont. Guimard disait, lui, il fonçait sur l'avion, vous voyez. Donc il était. On a des photos. On a une photo où il attaque un avion, il est 15 mètres derrière, vous voyez. Et il tire. Et lui-même a été abattu, je crois, 6 ou 7 fois. Il est tombé 7 fois, vous voyez. Donc ce sont des conditions absolument effroyables, hein, vraiment très particulières. Et donc la propagande va s'appuyer sur ces aviateurs pour développer l'idée d'une guerre chevaleresque, etc. Donc moi, tout ça, j'en reparlerai, mais c'est vraiment un thème intéressant parce qu'on a vraiment là quelque chose qui se met en place, qui est très particulier à la guerre de 14-18 et qui prend une ampleur de plus en plus, enfin, qui compte de plus en plus dans la guerre, même si la guerre reste en réalité une guerre d'artillerie et une guerre d'infanterie, hein, évidemment. Hein, mais c'est un des éléments qui apparaît et qui comptera évidemment beaucoup après.
Comme ça, on saura qui, des Allemands ou des Français, a fait le premier pas dans les airs pour que ce soit vraiment officiel pour les batailles.
Oui, voilà. Donc ça, j'en parlerai, hein, effectivement, de ces questions et des as, et en particulier du Baron Rouge, hein, l'as allemand qui a été le plus grand as de la Première Guerre mondiale. Voilà.
Vous avez mené un disque ?
Oui, oui. Donc comme chaque fois maintenant, hein, donc Dominica, donc c'est son premier album, mais c'est pas le. Alors on va pas écouter l'air le plus connu. Hein, l'air qu'on va écouter s'appelle Le Travail.
Je revenais du travail, personne ne m'attendait. J'abandonnais mon travail et quelqu'un survenait. Je reprenais mon travail, ce quelqu'un s'ennuyait. Je revenais du travail et seul me retrouvais. Je revenais du travail. Personne ne m'attendait. J'abandonnais mon travail et quelqu'un survenait. Je reprenais mon travail, ce quelqu'un s'emportait. Je revenais du travail et seul me retrouvais. On m'enlevait mon travail, plus seul je me sentais. Je cherchais le travail, là, plus tout seul j'étais. Je recherchais du travail, où je suis, il faisait. Je renonçais au travail, qui alors m'ignorait. L'appartement de taille, à être intimidant. Pour l'homme, ça me poussait, à chercher du travail. Qui maintenant m'attend. Et m'attendra longtemps. Qui maintenant m'attend. Et m'attend. Et m'attendra longtemps.
Je recherchais du travail. Nul autre n'y croyait. Je recherchais du travail. Pas assez snob j'étais. Je renonçais au travail.
Tu dors trop.
Je renonçais au travail, toujours plus seul j'étais.
va bientôt y avoir des journées des patrimoines.
Oui, tout à fait. Oui, donc les journées. Donc, je vous disais hein, juste avant notre pause musicale que nous allions présenter, donc inaugurer l'exposition, donc 16-17 à 17h30. Mais toute la journée, nous allons effectivement proposer pour le public scolaire des ateliers qui seront relatifs en fait à au thème des journées patrimoine qui sont patrimoine et citoyenneté. Ce qui nous a, nous, intéressés, c'est de proposer en fait une animation autour de nos, ce qu'on appelle les placards, donc en fait qui sont des affiches sans illustration, donc les placards révolutionnaires, qui sont fort intéressants et qui montrent en fait d'une certaine manière l'évolution de le fil de la révolution en fait de 89 à 1795, on s'est arrêté en 95, qui montre bien sa radicalisation, le fait qu'on passe d'abord d'une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle, puis à une république, hein, donc en septembre 1792. On voit toute l'évolution aussi de la symbolique qui est utilisée, celle d'abord royale, et puis au début on a le roi, la loi, la nation, et puis après on n'a plus que la loi, la nation, et puis après on change totalement on a toute la symbolique révolutionnaire, hein, celle des conventionnels, de la convention, hein, qui est beaucoup plus radicale, et donc voilà, c'est l'intérêt de cette journée. On évoquera aussi évidemment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1789. Et puis, enfin, la Marseillaise, puisque vous savez, dans l'année de la Marseillaise, et comme c'est le chant révolutionnaire par excellence, eh bien, nous proposerons une étude autour de la Marseillaise et aussi des contre-marseillaises, donc les contre-révolutionnaires qui ont utilisé la musique de la Marseillaise pour mettre des paroles anti-révolutionnaires, hein, contre, réactionnaires, on pourrait dire, voilà, contre la révolution, voilà. Donc, on essaiera de présenter tout ça et on proposera une version un peu plus allégée pour les adultes le lendemain, donc le samedi 17, lors des journées du patrimoine. Alors, on est ouvert, nous, le samedi après-midi, à partir de 14h jusqu'à 18h. Et en particulier, on proposera un petit jeu qui sera un jeu dont j'ai oublié le nom, mais qui sera un jeu en fait autour évidemment de la citoyenneté, autour de la révolution, avec différents niveaux, hein, du niveau enfant jusqu'au niveau expert, hein, pour bien vérifier les connaissances. Voilà, c'est un petit jeu un peu sympathique pour vérifier les connaissances que l'on peut encore conserver de cette période qui est très riche en événements, qui est très complexe. Et puis, il ne se passe pas un jour, un mois, une année sans qu'il y ait une foultitude d'événements. Et donc, c'est... Des fois, moi-même qui prépare ça, j'ai quelquefois un peu de mal à me retrouver dans ma chronologie, vous voyez. Donc, puisqu'on on a un peu oublié, vous voyez. On retient les grandes dates, évidemment, les grands événements, mais on oublie toute cette complexité qu'il y a. Et donc, ça sera l'occasion de vérifier ses connaissances par un système un peu ludique. Voilà. Donc, ça sera proposé aussi bien aux enfants qu'aux adultes, donc le samedi après-midi.
Il y avait Marseillaise qui, à l'époque, n'était pas l'hymne national. C'est arrivé bien plus tard.
Bien sûr, oui, bien sûr. Tout ça, effectivement, toute la symbolique révolutionnaire. On aurait pu faire le drapeau aussi, hein, le drapeau bleu-blanc-rouge, la Marseillaise, hein, qui sont les emblèmes de la République, hein, effectivement, Marianne, etc. Voilà, donc tout ça, évidemment, on aurait pu aborder toutes ces questions-là. Donc on a choisi la Marseillaise à cause de la Marseillaise, et puis parce qu'on avait... une exposition avait été faite en 2010 par les archives départementales sur les symboles de la République, et donc il y avait entre autres c'était Fanny Reboul qui s'en était occupée à l'époque, elle avait présenté des Mariannes, donc voilà, donc c'est pour ça qu'on n'a pas abordé ce thème, puisqu'il a été déjà traité, mais vous avez raison, on aurait pu évoquer toutes ces questions des emblèmes de la République, qui effectivement, alors là on les voit un petit peu, parce qu'on les voit par la Marseillaise évidemment, mais on les voit aussi sur les placards, puisque sur les placards on a évidemment les faisceaux de lecteurs, vivre libre et mourir, le bonnet phrygien, la pique révolutionnaire, vous voyez, on a tous ces éléments-là. Et ce qui est très intéressant, c'est vraiment, et je m'en étais pas vraiment rendu compte avant de préparer avec le service éducatif, hein, Lucie Chélan et notre enseignante qui est dévolu aux archives départementales. Et je m'en étais pas rendu compte, effectivement, comme les affiches montrent bien, simplement par les emblèmes, montrent bien l'évolution de la Révolution, et même les moments où les choses sont en train de changer et où l'imprimeur et l'administration qui demandent à imprimer des affiches dans le cadre du département, puisque les affiches sont imprimées après à Digne, on voit qu'on ne sait plus trop quoi utiliser, en particulier au moment de la chute du roi, donc le 10 août 1792, entre le moment de la chute du roi, 10 août 1792, et le 20 septembre 1792, donc l'instauration de la République, on a du mal à l'administration locale a du mal à savoir comment faire, oui, parce que il y a un gouvernement provisoire, hein, il y a un comité provisoire, mais ces petites phases d'incertitude, ça se transparaît aussi dans les affiches. Voilà. Donc c'est intéressant, oui, justement de traiter ce sujet qui nous permet aussi de travailler sur nos fonds, puisque vous savez que le principe, c'est pas simplement faire de l'action culturelle pour de l'action culturelle, c'est aussi une façon pour nous de travailler sur nos placards. On en a des centaines, voire des milliers, une collection très importante, et donc c'était aussi une façon de reprendre le traitement de ces fonds, de les reclasser, de les ranger par ordre chronologique, par année, etc., et puis de revoir un petit peu les thématiques qui sont abordées.
Là, il y a beaucoup de Basalpins qui sont allés pour la guerre de 14-18. Est-ce qu'il y a eu des habitants des basses Alpes de l'époque? Parce que quand il y a eu la Révolution, après, il y a les ennemis qui se sont un peu pressés aux portes de notre pays pour essayer de nous grappiller un petit peu des choses, non?
Pour la Révolution, oui, mais oui, c'est un peu... Alors, en fait, je pense qu'un jour, nous ferons un point un petit peu sur la question de la période révolutionnaire. Alors, ça a été fait par Jean-Bernard Lacroix, donc, qui est un de mes prédécesseurs, qui avait travaillé au moment du bicentenaire de la Révolution, donc 1989, qui avait travaillé sur ce sujet. Mais c'est une série pour nous qu'on appelle la série L, hein, qui concerne l'administration révolutionnaire, qui est assez mal classée, qui mériterait donc d'être reprise, qui n'est pas classée selon les règles d'ailleurs en cours chez les archivistes. Hein, il y a une sorte de préclassement, on va dire. Donc on peut quand même travailler avec, mais il y aurait vraiment à reprendre pour mieux connaître, parce que il y a encore beaucoup de points qu'on ne connaît pas dans le département. En plus, on a un département frontalier, vous voyez, donc tout ça a une importance. Et effectivement, on a du mal, par exemple, à évaluer l'impact de la Révolution du point de vue du clergé. Un clergé réfractaire en particulier, hein, savoir quel est son niveau. J'aurais du mal à vous parler même des ventes des biens nationaux, donc soit de première origine, donc ceux du clergé, soit de deuxième origine, donc ceux de la noblesse, hein, qui ont été confisqués pour faire des migrations, etc. Voilà, donc tout ça est assez mal connu, et donc il y aurait un vrai travail à faire, et sans doute pour nous un projet aussi autour de ça. Voilà. Le problème, c'est qu'on a tellement de projets, vous voyez, tellement de choses à faire qu'on a du mal à tout faire en même temps. En fait, en réalité, c'est un travail que je voulais faire il y a 2 ans. J'ai commencé à classer la série L, et malheureusement, j'ai pas réussi à m'y mettre un tout petit peu, vous voyez, même simplement à travailler un petit peu une journée par semaine, vous voyez, ou une demi-journée par semaine. Je n'y arrive pas, parce que c'est un travail d'ampleur, vous voyez, donc et se lancer dedans, c'est un peu compliqué, voilà. Donc, mais vous avez raison, il y a un travail à faire aussi. Il y aurait des choses à découvrir, hein, de toute façon, vraisemblablement, parce qu'on connaît certains domaines assez bien, hein, quand même, hein, il y a eu des choses qui ont été faites, mais c'est vrai qu'on n'a pas une vision un peu globale, quoi, voilà. Et puis surtout, on ne connaît pas la richesse de nos archives. Voilà. Donc là, il y aurait, alors je dis archives départementales, mais aussi archives communales. Voilà, c'est pareil, il y aurait aussi beaucoup à voir dans les archives qui sont encore détenues par les communes, dans les communes en principe de plus de 2000 habitants, il y aurait aussi des choses à retrouver.
Et est-ce que la Révolution a laissé quand même des traces de notre côté au niveau des exactions?
Alors, c'est difficile à dire. C'est une chose compliquée. Là, je travaille un petit peu sur la Révolution sans vraiment travailler dessus. Je travaille, en fait, en vue de préparer une journée d'études qu'on fera donc le 3 décembre autour du patrimoine bâti. Nous allons proposer donc au public, hein, ça sera ouvert au public, un certain nombre de communications. Et moi, je travaille sur la préfecture, sur le palais de justice, et d'autres établissements qui sont à l'origine donc des biens du clergé, donc qui ont été confisqués par la nation. Soit on dit confisqués, soit on dit nationalisés, hein, voilà, et qui sont qui ont changé de vocation. Voilà. Donc effectivement, il n'y a pas de destruction, mais il y a évidemment. Mais comme partout, il y a eu cette nationalisation qui a permis d'ailleurs de créer les assignats. Hein, c'était la base pour créer les assignats. C'était une façon de récupérer un peu de la richesse du clergé pour la rendre à la nation. Hein, c'était ça l'idée. Et donc ces bâtiments, qui étaient donc des établissements ecclésiastiques, ont été donc modifiés pour adaptés, on va dire, pour devenir des bâtiments civils. C'était le cas aussi de l'évêché, hein, qui n'existe plus aujourd'hui. Qui était démoli, mais qui était le siège du tribunal, etc. Oui, avant le palais de justice, qui a même abrité des bureaux de la préfecture pendant longtemps, et puis qui est redevenu évêché aussi sous la Restauration. Mais ça sera étudié par Madame Franek, hein, donc la directrice adjointe des archives départementales. Voilà. Donc on proposera effectivement par un angle un peu particulier une étude. Mais vous voyez, d'un point de vue général, j'aurais beaucoup de mal à vous en parler. Les confiscations, tout ce qui est du domaine du patrimoine mobilier, par exemple, qu'est-ce qu'il en est? Les cloches qui auraient été fondues, vous voyez, parce qu'on a aussi récupéré des cloches pour faire des canons. Hein, voilà. Donc il y aurait beaucoup de choses encore à étudier. Je sais que ponctuellement, ça a été fait, hein, mais je n'ai pas d'idée de l'ampleur. Voilà. Et donc, effectivement, c'est un sujet. J'ai retrouvé le thème en fait de notre jeu qui s'appellera donc le jeu du républicain, oui, donc c'est très simple. Alors les quatre niveaux, voilà, je vous les donne, hein, c'est Gavroche pour les enfants, Girondin, c'est le niveau normal, Jacobin, c'est chevronné, et sans culotte, c'est émérite. Voilà, hein, donc les quatre niveaux pour vérifier donc vos connaissances. Donc je vous donne rendez-vous donc le samedi après-midi aux archives départementales, donc le samedi 17 septembre pour justement tester ces connaissances. Alors, évidemment, il n'y a pas de notes à la fin, évidemment, mais il n'y a pas de cadeau non plus. Voilà.
C'est juste ludique.
Voilà, c'est juste pour le plaisir. Hein. C'est une façon sympathique, agréable. On l'avait fait, quand on avait fait sur les maisons d'école, on avait fait un petit jeu comme ça. Vous savez, on avait repris dans les fameux tableaux qu'on présentait aux enfants dans les maisons d'école. Alors, c'était tableaux édifiants, Jeanne d'Arc, la bataille de Poitiers, etc. Et oui, tous ces grands événements qui étaient montrés. Et on demandait aux visiteurs de mettre en correspondance ces événements avec une date. Eh bien, c'était très difficile et il n'y a qu'une seule personne, à ma connaissance, qui a réussi complètement le test. Oui. Bon, je ne dirais pas qui c'est, hein, voilà, mais c'est très compliqué, en fait. Hein, il y a des événements très faciles à resituer, 1515 Marignan, évidemment, oui, mais il y a d'autres événements. Dans la chronologie, on a un peu de mal, le baptême de Clovis. Évidemment, plus on va dans le temps, et même un petit peu entre le 15e et le 16e, il y avait des confusions, vous voyez. Voilà. Donc là, ça sera évidemment... il y a les niveaux, donc déjà, à la différence de ce premier jeu où il n'y avait qu'un seul niveau, là, il y aura la possibilité de jouer en fonction de son niveau. Et puis, c'est tout à fait pour le plaisir. L'idée, en fait, c'est un peu de resituer un petit peu. Vous savez, ça fait du bien de t'entendre un peu se régénérer, hein, ce qu'aimaient bien les révolutionnaires, hein, la régénération. Donc, se régénérer, en l'occurrence, un petit peu revenir sur ses connaissances, un peu les conforter ou, au contraire, voilà. Et donc, d'essayer aussi de non seulement de resituer des événements dans le temps, mais aussi il y aura un petit texte derrière qui expliquera la portée de l'événement. C'est évidemment très important de recontextualiser tout ça. Et puis pour nous, évidemment, ça rentre tout à fait dans une vocation. Je rappelle, hein, que les archives départementales ont aussi une vocation à servir le public, évidemment, mais aussi à proposer des activités qui sont évidemment en lien avec les valeurs de la République, ce qui paraît tout à fait légitime et ce qui paraît de plus en plus important, évidemment, compte tenu du contexte d'aujourd'hui. Et donc, il nous paraissait utile de revenir sur les questions de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, des valeurs révolutionnaires, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Marseillaise, qui est un chant révolutionnaire, mais qui est contre le despotisme. Vous voyez, hein, il faut toujours. Le problème, c'est qu'il faut toujours recontextualiser les choses pour les comprendre. Hein, et il faut leur donner un sens. Alors, certes, le sens évolue. La Marseillaise d'aujourd'hui n'a pas le même sens que pour les Marseillais qui l'ont chanté la première fois, vous voyez, hein, ou pour puisque c'est au départ le champ de guerre de l'armée du Rhin. Donc voilà, hein, donc, puisque c'est ça l'origine. Évidemment, le contexte n'est plus le même. On ne peut pas recréer ce contexte-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est le sens véritable du chant, et ce sens-là n'a pas changé. Vous voyez, hein, c'est lutter pour la liberté, contre le despotisme, contre les satellites, hein, etc. Et ce n'est pas autre chose que ça. Voilà. Et donc, c'est bien aussi de reprendre un petit peu ces événements. C'est bien de rappeler que la Révolution a été un événement tragique aussi. Hein, c'est-à-dire que ça s'est traduit effectivement par des guerres déclarées donc en 1792, où vous avez l'Europe entière quasiment qui s'est coalisée contre la France. Je crois que, me souvenir qu'au pire moment, il y avait, je crois, jusqu'à 18 armées qui entouraient sur toutes les frontières de l'Espagne, jusqu'au nord, jusqu'à la Belgique, qui attaquaient la France. Donc il faut aussi donc se remettre dans ce contexte-là pour comprendre en fait la portée de l'événement. Le but n'est pas de faire l'apologie évidemment de la Révolution, le but c'est de revenir sur les valeurs qui étaient portées par les révolutionnaires qui ont lutté pour les imposer.
Il y a eu des batailles célèbres à cette époque-là qui marquent encore les esprits.
Ah bah il y a Valmy évidemment, hein, c'est la bataille là, puisqu'elle est totalement liée en plus compte tenu de sa date, hein, de septembre 92, elle est totalement liée en plus. Alors c'est une bataille qui est une non-bataille en réalité, hein, puisque Brunswick repart sans vraiment insister, mais c'est une victoire effectivement qui a beaucoup compté, puisqu'elle a montré la force. Hein, alors je ne vais pas revenir sur la levée en masse, l'appel au volontariat. Qu'on connaît bien, enfin, c'est un des événements qu'on connaît bien, mais effectivement, c'est l'idée de la nation en armes qui réussit en fait à repousser les satellites, hein, les satellites du despotisme, etc. Hein, évidemment, une bataille. Il n'y a pas que celle-ci, évidemment, hein, mais c'est celle qui a le plus compté, sans doute, hein, avec les célèbres moulins de Valmy. C'est une image d'Épinal, hein, une de celles qu'on trouvait justement dans les classes enfantines autrefois, qui a marqué beaucoup les esprits.
Puis il y a un certain Bonaparte qui commence à montrer le bout de son nez.
Alors c'est après, oui, effectivement, c'est plus tard, effectivement, vous avez raison. Mais Bonaparte, c'est d'abord Toulon, hein, c'est effectivement, donc quand Toulon se livre aux Anglais, c'est l'église Saint-Roch aussi, mais ça c'est contre les... C'est contre la réaction en fait, hein, donc et puis c'est l'expédition d'Égypte, enfin c'est d'abord l'Italie, enfin l'expédition d'Égypte d'abord, l'Italie, etc. Enfin c'est tous ces événements qui sont, je vais dans le désordre là, c'est l'Italie et l'Égypte, voilà, qui sont effectivement importants. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est plutôt c'est la période avant 95. Celle d'après est un peu différente. Vous savez, la question de savoir où s'arrête la Révolution, hein, c'est un débat. Généralement, on l'arrête en 99. On peut la poursuivre donc avec le Directoire, en fait, et le début du consulat. Quelquefois, on va jusqu'au consulat. Quelquefois, le consulat est impliqué dedans, est intégré dans la Révolution, voilà. Quelquefois on l'arrête aussi en 95, donc avec la réaction thermidorienne, hein, donc 94, la réaction thermidorienne, 95, la fin de la Convention, voilà, donc c'est très difficile. Nous, pour notre affaire, on s'est vraiment arrêté en 95 parce que, par rapport à notre collection de placards, c'est là qu'on voit quand même que tout se met en place. C'est-à-dire qu'après, effectivement, il y a encore un certain nombre de dispositions qui sont très importantes, hein, y compris d'ailleurs sous le consulat et sous l'Empire, mais on voit bien quand même que tout le projet révolutionnaire est contenu dans les années 89-95 et particulièrement donc, dans les années 92-95. Voilà, c'est là que vraiment tout se joue.
Et le calendrier républicain est arrivé à quelle époque ?
Il arrive justement à cette période-là. En fait, toute l'installation, donc le calendrier de Fabre d'Églantine, hein, donc tout ça, c'est l'an 2 de la République, en fait. Hein, donc c'est vraiment la période 93-94, hein, qui sont les années les plus cruciales. Les années les plus débattus par les historiens, les moins consensuels, hein, puisqu'il y a la terreur, hein, ce qu'on appelait la terreur après, hein, parce que les terroristes, la grande terreur, à partir de la loi de Prairial en deux, voilà. Donc C'est un sujet très polémique, mais ce qui importe pour nous, ce n'est pas de faire de la polémique, ce n'est pas faire de l'interprétation, etc. C'est de montrer justement cette mise en, enfin justement ces valeurs, en gros, qui sont d'abord la liberté en 89. Puis l'égalité en 92 avec la République et la fraternité plutôt en 94. Voilà, hein, c'est plutôt ça qui nous intéresse.
Vous parliez de Fable et d'Églantine. La symbolique d'Ile-Pleu-Bergère, c'est quoi exactement?
Alors ça, Ile-Pleu-Bergère, ça c'est autre chose, oui, mais comment dire, c'est oui, Ile-Pleu-Bergère entre tes blancs moutons, etc. Alors ça, je ne peux pas vous en parler comme ça, il faudrait que je travaille un peu le sujet, mais alors, ce qui est important dans le calendrier révolutionnaire, en fait, c'est quoi? C'est l'idée, c'est comme les départements en 89 et 90, quand on crée les départements, c'est l'idée de rompre avec l'ancien régime, hein, c'est du passé faisant table rase, et là, c'est de créer un temps qui n'est plus un temps religieux. La semaine telle qu'on la connaît aujourd'hui, puisque c'est la reprise en fait, et telle qu'on la connaissait, c'était vraiment un temps religieux. Hein, c'est-à-dire que du lundi, le vendredi, la passion, le samedi, le dimanche, le jour du Seigneur, hein, le repos, etc. L'idée, c'était de totalement transformer, de faire disparaître en fait toutes les références à la religion, et de créer un nouveau temps. C'est-à-dire que c'est un vrai projet, pour le coup, c'est une révolution culturelle, pour vraiment. Hein, c'était, mais c'est à mettre avec le même, dans le même mouvement que, par exemple, la mention du maître, de la métrologie, en fait, hein, puisqu'on rompt totalement avec les mesures d'ancien régime, qui étaient locales, hein, même si elles avaient des fois des noms nationaux, mais qui avaient des applications locales. L'idée, c'est à la fois d'unifier, ça c'était un petit la métrologie, etc., donc les mesures en fait, hein, mais aussi de créer en fait de nouvelles valeurs culturelles. Et le projet donc du temps, donc du calendrier républicain, comme son nom l'indique, c'est de créer un temps républicain, c'est-à-dire de sortir. L'idée, c'est qu'en fait, il faut rompre avec le passé, il ne faut plus que les individus qui sont tellement, oui, tellement imprégnés par cette culture qui était une culture religieuse, il faut les sortir de ça pour créer un nouveau temps. Et donc, d'où le choix de la décade, donc 10 jours, hein, le décadi qui était le 10e jour, les noms utilisés, hein, pré-réal, feu-réal, thermidor, fructidor, etc. Voilà.
Et décadence, ça vient de là?
Pardon?
Décadence?
Ah non, ça n'a rien à voir. Non, la décade, c'était donc, l'idée, c'est qu'on ne faisait plus une semaine de 7 jours, on faisait une semaine de 10 jours, en fait. Hein. Il y avait donc, et ça crée d'ailleurs des problèmes au niveau du calendrier général. Enfin bon, et on avait des jours complémentaires, parce que pour coller au cycle en fait du temps, hein, tout simplement, il fallait, donc on avait des jours complémentaires à la fin de l'année, hein, qui se rajoutaient, voilà, puisque ça, on pouvait pas diviser le temps, la révolution autour du soleil par 10, voilà, donc c'est pour ça qu'on avait créé ces jours, mais ça, alors, les paysans n'étaient pas très contents, parce que les paysans ne se reposaient plus que le dimanche, oui, enfin le dimanche c'était devenu le décadi, et donc ça c'était tous les 10 jours, oui, alors que le rythme précédent. Et il ne faut pas oublier que on a une fausse idée du temps de travail sous l'ancien régime. En fait, il y avait beaucoup de jours chômés. Il y avait tous les jours religieux, plus toutes les fêtes religieuses importantes, etc. Donc, ce qui fait qu'en réalité, il y avait beaucoup de temps d'arrêt. Voilà. Or, tout ça disparaissait avec la Révolution. Voilà. Donc, ce qui fait que, alors, la Révolution a quand même créé des fêtes. Hein. Il y a eu un jour, si vous voulez, je pourrais vous en parler. Hein, toutes les fêtes pour les vieillards, la fête de la jeunesse. Enfin, il y a eu des quantités de fêtes qui ont été créées pour justement un petit peu remplacer justement toutes ces fêtes religieuses. Donc, vous voyez, c'est l'idée de faire un nouveau temps, un nouveau rythme de travail, de vie. Des nouveaux noms, hein, on fait disparaître, comme pour les départements, on avait supprimé toute référence à l'ancien régime, en supprimant d'abord les régions, hein, il n'y avait plus de régions, et en donnant des noms géographiques, etc., aux départements, à la Côte d'Or, les Basses-Alpes, vous voyez, pour justement qu'il n'y ait plus de référence avec cet ancien régime. Et bien là, c'est pareil, on utilise, alors il y a de la poésie, hein, évidemment, hein, dans tout ça, parce que les noms sont très jolis, hein, Nivose, Ventose, Pluviose, hein, ça marche par trois, hein, donc les Oses, les Ors, les d'or, etc. Voilà, tout ça est très poétique, mais c'est vraiment voilà. Bon, ça n'a pas résisté longtemps. Je crois que c'est en 1805 ou en 1806 qu'on abandonne. C'est l'an 13 ou en 14, on abandonne le système. Voilà, mais c'était bien l'idée. En plus, là, on parle des mois, mais il y avait aussi les ans, hein, les années. Et en fait, on partait de l'an. Alors, quand on est au début de la Révolution, en 89-90, pour les gens de 90, l'an 1, c'est 89, vous voyez. Mais quand on est dans le calendrier révolutionnaire, celui que, dont on parle tout de suite, là, l'an 1, c'est la République. Ouais. Et donc, en fait, c'est un temps républicain, voilà, qui est vraiment calculé à partir du début de la République. Donc, on n'est plus dans le système, évidemment, de la naissance de Jésus, hein, qui était celui qui était en place précédemment. Voilà, c'est vraiment, oui.
L'ancien locataire.
Voilà, vraiment, il y a vraiment un projet. Hein, c'est une révolution culturelle. Hein, il faut vraiment s'imaginer ça. Alors après, les effets qu'elle a eus sur le terrain, c'était un peu compliqué, mais il n'empêche que dans les archives, on trouve le plus souvent. Le temps révolutionnaire qu'utilisé, et puis quelquefois on rappelle quand même le vieux style. Alors on dit vieux style, hein, c'est-à-dire qu'on donne la date ancienne, vieux style on met, ouais, parce que c'est plus simple aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que les activités des hommes étaient aussi beaucoup rythmées par ce temps ancien, hein, qui était... voilà, donc c'est pour ça, des fois les choses étaient un peu plus compliquées que... Pour un administratif c'était très simple, mais pour quelqu'un qui faisait du commerce, etc., c'était un peu plus compliqué, voilà. Donc on gardait les deux, quelquefois on a les deux. Voilà.
Bien.
Voilà, écoutez, je ne sais pas si on a encore un peu de temps.
Oh, vous avez deux, trois minutes, sans problème.
Voilà, écoutez, simplement pour dire d'inviter tous nos auditeurs à aller toujours regarder, d'aller voir l'exposition qui est présentée à la cathédrale Saint-Jérôme, qui est consacrée aux couleurs, qui reçoit actuellement autour de 150 à 200 visiteurs par jour. Donc on en est très content. Les retours qu'on a sur cette exposition sont très positifs. Donc voilà, donc j'invite un petit peu pour changer un petit peu de l'histoire, d'être dans l'histoire, mais aussi dans les objets, de voir un petit peu ces objets dont certains sont absolument merveilleux. Vraiment, j'invite tout le monde à aller regarder cette exposition et puis d'aller dans ce lieu. Qui est aussi très agréable par ce temps très chaud, la fraîcheur d'une cathédrale, et de regarder le monument lui-même, qui est un monument qui a été très remanié au 19e.
Cathédrale Saint-Jérôme à Digne.
Exactement. Voilà.
Jean-Christophe, on se retrouve, on fait l'impasse du mois d'août.
Oui.
On se retrouve, prochain rendez-vous avec vous le jeudi 8 septembre, deuxième jeudi de septembre.
Eh bien, tiens, très bien, je serai au rendez-vous. Merci à vous.